Valdehansen.
À quoi ça sert la citoyenneté européenne ?
En 1979, le taux de votants s'est levé à 62%, alors qu'en 2023, le taux de votants est estimé à 42%. Concrètement, comment expliquer cette baisse importante et presque inattendue en 44 ans ? Des élèves de terminale vont tenter de répondre à cette question. Il est vrai que nous avons encore tendance à nous focaliser sur nos intérêts nationaux, alors que des organisations comme l'Union européenne existent pour justement nous faire davantage valoir nos droits.
Mais est-ce que vous êtes au courant que les élections européennes auront bientôt lieu ?
Ah ouais ?
Vous savez pour qui voter ? Moi, je pense avoir fait mon choix.
Comment ça ? Je ne savais même pas que ça existait.
Sérieusement ? Bon, ça tombe bien. On va t'expliquer parce que là, ça devient urgent. Pour commencer, est-ce que tu sais que tu as des droits et des devoirs en tant que citoyen européen ?
Sache qu'à partir du moment où tu as la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne, tu es automatiquement citoyen européen. Et ce, depuis 1992, grâce au traité de Maastricht.
Oui, en effet, la citoyenneté européenne s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. Est-ce que tu peux me donner d'autres exemples ? À part les élections, je n'en sais pas plus.
Tu peux, par exemple, étudier, circuler et séjourner librement à l'étranger. L'espace Schengen, ça te parle ?
Oui, je connais. Il a été mis en place suite à un accord en 1985 pendant la CEE, l'ancêtre de l'Union européenne. Comme tu le disais, c'est grâce à lui qu'on peut circuler librement vu qu'il n'y a plus de contrôle aux frontières intérieures.
Et cet accord permet non seulement une meilleure cohésion entre les États membres et donc une sécurité plus performante.
Mais il faut aussi prendre en compte l'atout économique de cet espace qui favorise le développement d'un marché unique, comme les pouvoirs d'achat, les prix attractifs, l'innovation.
On a oublié le plus évident. Avec le traité de Lisbonne de 2009, notre statut de citoyen européen élargit nos droits.
Notamment avec le fameux droit d'initiative citoyenne, qui est semblable à un comité citoyen.
De même, en cas de litige, de situation d'incompréhension, il est possible d'écrire aux institutions européennes et obtenir une réponse dans la langue de son choix. Tous les États se valent, avec ce principe-là, aucune discrimination possible. Un État pour tous et tous les États pour un.
Clairement, c'est le principe de la démocratie. Nous avons aussi le droit de pétition.
Pétition comme dans le fait de se rebeller contre son État membre ?
Non, pétition comme le fait de pouvoir s'adresser aux institutions de l'Union européenne pour des requêtes, des réclamations ou pour que des mesures soient prises.
On favorise la discussion, le pacifisme. Comme on le disait, en votant, on contribue directement au façonnement de la démocratie au sein de l'Union européenne.
Exactement. Les élections ne sont pas à négliger. C'est bien grâce à elles que l'on peut donner notre avis personnel, ce qui influencera les prochaines décisions collectives.
Mais si, par exemple, un ambassadeur français vit en Allemagne pendant une certaine durée due à son travail, mais qu'il souhaite voter lors de ces élections, comment faire ? Il ne va pas rentrer en France pour les élections et retourner en Allemagne quand même.
Heureusement que non. Même si tu es en vacances, tu peux voter pour le prochain député qui représentera ton état d'origine, tant que tu es situé dans un état membre de l'Union européenne.
Génial tout ça ! Donc si je résume, on va tous aller voter très prochainement pour un député qui nous représentera. Et dire qu'en arrivant, j'ignorais tout ça.
Soyons réalistes, il existe certaines limites. On peut, dans un premier temps, relever que les pays ont une certaine mainmise sur nos droits en tant que citoyens européens.
C'est le cas en France, par exemple, qui interdit l'exercice de certaines fonctions par rapport à la durée de résidence dans le pays.
Aussi, les gens ne prendront pas vraiment au sérieux ces élections. Ce qui nous importe le plus souvent, c'est les élections présidentielles. Mais ça ne s'arrête pas là.
Peu de personnes participent aux élections européennes. Les plus aisés se sentent plus concernés, contrairement aux plus défavorisés qui se sentent illégitimes.
Pourtant, la Charte des droits fondamentaux, signée à Nice en 2000, précise bien que la jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs.
Mais les élections européennes de 2019, elles, ont été marquées par l'augmentation de la participation électorale.
On comptait 50,66% de votants, ce qui fait que cette élection a eu le taux de participation le plus élevé depuis les élections européennes de 1994.
Conclusion, on ne naît pas citoyen exemplaire, en revanche, on le devient. Mais une chose est sûre, on ne l'est jamais à demi. C'est sur ces belles paroles que nous vous laissons, c'était
Gabriel,
Clara,
Lucas
et Aminata pour les Europorteurs. Attendez une minute, avec tout ce que vous venez d'entendre, j'espère que vous êtes mieux informés sur le sujet.
En parlant de citoyenneté, justement, nous passons maintenant à un sujet qui nous concerne tous en tant que citoyens, l'écologie.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le
parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Pas de pays sans paysans, pas de nourriture sans agriculture, des slogans qui résonnent dans presque tous les pays européens. En effet, il y a quelques semaines, les révoltes agricoles secouaient ces derniers et l'Union européenne se trouvait au cœur d'un débat crucial entre la protection de l'environnement et le soutien aux industries agricoles. Face à ces défis, l'Union européenne déploie son ambitieux Green Deal, créé en 2019, une initiative phare visant à transformer l'Europe en un pionnier de l'action climatique mondiale. Mais comment concilier les exigences environnementales avec les besoins des agriculteurs ? Le Green Deal serait-il l'ennemi commun de tous les agriculteurs ? En effet, ces derniers dénoncent un plan qui prône la transition écologique et qui a des objectifs de réduction de l'usage des pesticides bien trop élevés selon eux. Et c'est là que réside l'un des défis majeurs que l'Union européenne s'efforce de relever. Mais qu'est-ce que le Green Deal ? C'est ce qu'on va vous voir maintenant. Tout d'abord, nous avons demandé à des élèves et des professeurs du lycée Val-de-Seine s'ils savaient ce qu'était le Green Deal.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Green Deal ?
Non, je n'ai jamais entendu parler.
Oui, je connais de nom, j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux.
Oui, vaguement. J'essaye de me maintenir informé. J'en ai entendu parler un petit peu ou lu dans la presse.
Bien sûr, qui ne connaît pas le Green Deal, le Green, le vert, la nature, les plantes deal, on entend quoi être dans deal ? Accord, c'est un accord, je pense, pour la nature.
Je vois à peu près ce que c'est, je crois que c'est un projet porté par l'Union européenne pour qu'en 2050, on soit à peu près neutre en carbone.
La première réponse à la question, c'était qu'est-ce que c'était le Green Deal ? Alors le Green Deal, c'est un ensemble de mesures qui vise à engager l'Union européenne sur la voie de la transition écologique. Ce pacte, il devrait permettre à l'Europe d'atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Et surtout, l'Europe serait le premier continent à compléter ce défi. Il serait la plus grande série de lois sur le climat à l'échelle mondiale, ce qui témoigne de la véritable importance du Green Deal, mais aussi de l'Union européenne. Promulgué le 11 décembre 2019, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen ont rendu publique une directive qui possède de nombreuses ambitions, comme celle que j'ai citée précédemment. L'objectif central serait en effet de rendre l'Union européenne neutre en carbone d'ici 2050, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. Mais de nombreuses autres finalités veulent voir le jour. En effet, entre transition énergétique, rénovation énergétique durable, mise en place d'une agriculture et d'une mobilité durable et protection de l'environnement, le Green Deal impacte de nombreux domaines.
Et on s'est quand même demandé si les citoyens européens ressentaient l'impact de toutes ces mesures sur leur vie quotidienne.
Après, ce qui peut avoir un impact pour moi, on va dire, c'est la thématique globale de la protection de l'environnement. Sur la question du coup de la politique de l'Union européenne en tant que telle, ça, je maîtrise pas.
Non, pour moi, ça n'a aucun impact sur ma vie tout court.
Tout de suite, je ne sais pas si des choses que j'ai vues au quotidien sont en lien avec le Green Deal. Je sais que, par exemple, il y avait des mesures comme la prise en charge de l'abonnement de transport des travailleurs, voilà. Donc je suis bénéficiaire de cette prise en charge. Mon employeur paye la moitié de mon abonnement au transport en commun, ce qui m'encourage entre autres à prendre plus les transports en commun. Peut-être la vraie difficulté, c'est que des contraintes quotidiennes ou bien des mesures qui sont favorables aux gestes écologiques, on ne sait pas toujours de façon très claire si ça vient de l'Europe, de la France, de la municipalité. Il y a des choses et on ne sait pas très bien d'où elles viennent.
Oui, mais en tant que jeune, je vois pas trop, mais je sais par exemple que les agriculteurs, ça les impacte.
Oui, certainement. Après, on peut se poser la question si ce sont des mesures suffisantes ou si en réalité le problème n'est pas plutôt structurel, qu'il faudrait agir sur des structures profondes de notre économie.
Et voici la réponse de notre experte.
La directive européenne du Green Deal n'a pas en elle-même d'impact direct sur la vie des citoyens européens. Néanmoins, la série de législations à échelle européenne ou nationale qui en découlent ont, elles, un impact plus important sur les citoyens. En effet, pour atteindre son objectif, ce plan ambitieux doit réviser chaque loi existante à propos de l'environnement et en introduire de nouvelles. À titre d'exemple, on pourrait citer le déblocage d'un fonds social pour le climat permettant la rénovation de 3% des bâtiments du secteur public afin de diminuer la consommation d'énergie ou encore la plantation de 3 milliards d'arbres à travers l'Europe d'ici 2030. Concernant plus précisément la France, par exemple, le Green Deal a permis la mise en place d'une série de lois qui affectent directement la vie des Français, comme par exemple avec la fin de la vente des véhicules essence et diesel, la rénovation de bâtiments qui consomment beaucoup d'énergie, l'aide à l'achat de véhicules électriques, ou encore l'arrêt de l'usage d'emballages plastiques jetables, comme on a pu l'apercevoir dans les fast-foods par exemple.
Alors on le voit donc, le Green Deal nous impacte tous au quotidien en tant qu'Européens. Mais on s'est quand même demandé si les mesures mises en place étaient vraiment suffisantes.
Je pense qu'il faut en faire plus pour l'écologie. Bien évidemment, quand on rajoute des contraintes aux usagers, je pense qu'il faut tenir compte aussi des besoins des gens. Moi, en tant que citadin, qui ne prend jamais la voiture pour aller travailler ou pour me déplacer, par exemple, c'est évident que je vais être content qu'il y ait plus des voies cyclables, qu'il y ait plus de places en ville pour les piétons et moins pour les voitures. Mais d'un autre côté, quand je parle avec des collègues, avec des amis qui, eux, ils doivent se déplacer en voiture et qui n'ont pas d'autre choix, bah, ça me paraît injuste et pénalisant qu'il n'y ait pas à côté des mesures qui permettent de rendre les contraintes écologiques plus simples pour eux.
Non, je ne suis pas suffisant, mais je pense que c'est encourageant pour la suite déjà, ces mesures.
Déjà, je pense que c'est très important qu'il y ait ce genre de mesures, mais c'est peut-être pas tout à fait suffisant. Il faudrait que l'Union européenne élabore peut-être des mesures qui vont concerner plus directement aussi les entreprises, donc qui vont vraiment donner des raisons aussi matérielles, économiques aux entreprises d'altérer leur manière de produire.
Je trouve que le Green Deal n'est pas assez médiatisé, voilà, avec les médias de nos jours passés.
Le problème, c'est que ça reste, souvent des mesures qui relèvent de compromis entre différents États européens, donc qui sont pas forcément finalement toujours très poussées, ou en tout cas pour certaines qui repoussent des échéances sur un temps assez long, et donc pour lesquelles je trouve qu'on n'a pas forcément le sentiment de vraiment se rendre compte. Je pense par exemple à tout ce qui était interdiction des véhicules à moteur thermique, etc. Est-ce que même ce sera possible? Je suis assez dubitative sur effectivement la faisabilité d'un certain nombre de mesures.
Aujourd'hui, en 2024, on peut déjà faire un premier bilan de ce qui a été mis en place grâce au Green Deal.
En effet, cette véritable révolution industrielle verte a permis en seulement quelques années d'entreprendre pas moins de 32 législations en un temps record. De la fin du moteur thermique en 2035 à la mise en place d'une taxe carbone aux frontières, leur permettant de réduire de 55% leur émission de CO2 d'ici à 2030, il reste encore aux Européens, pour respecter la feuille de route qu'ils se sont promis, une bonne quarantaine de textes à boucler. Néanmoins, d'un côté, les révoltes actuelles des agriculteurs accusant le Green Deal d'être un projet bien trop ambitieux s'opposent aux idées de ceux qui, eux, dénoncent l'inefficacité du projet. Alors comment concilier les deux parties opposées dans un contexte social plus que tendu et sous une urgence climatique de plus en plus préoccupante ?
Aujourd'hui, nous avons tenté de vous expliquer le Green Deal,
ses ambitions,
ses actions concrètes
et ses limites. En effet, cette directive de l'Union européenne, parfois méconnue, a en effet un réel impact sur notre quotidien.
Mais plus encore sur notre futur.
Merci de nous avoir écoutés.
Val en scène. L'écologie est un sujet important, surtout dans les entreprises du fast fashion, qui est le prochain sujet du reportage, justement.
Bonjour à tous et bienvenue sur notre émission spéciale sur la fast fashion. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de la mode rapide et explorer ses impacts sur l'environnement, la société, l'économie et l'Europe. Je suis accompagnée de deux invités spéciales, Théa et Yélise.
Bonjour.
Bonjour.
Petite question, dites-moi, dans quelle boutique est-ce que vous achetez vos vêtements habituellement ?
Pour ma part, j'achète plutôt mes vêtements chez Zara et H&M ou encore Primark.
Oui, moi aussi. Et j'aime bien les magasins comme Adidas et Shein.
En fait, la plupart de ces magasins sont considérés comme des représentants de la fast fashion. Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Oui, la fast fashion, c'est un style de production de vêtements rapide, abordable et souvent éphémère.
De plus, il y a de nombreuses conséquences liées à la fast fashion, comme l'impact sur l'environnement, la pollution, ce qui entraîne une surconsommation et une surproduction, et donc un gaspillage en masse des textiles. Les travailleurs ont de très mauvaises conditions de travail et ont des salaires misérables.
C'est exactement ça et on en parle aujourd'hui car l'Europe tente de réguler la fast fashion.
En effet, il y a eu un accord entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne le 14 décembre 2023 sur de nouvelles règles qui obligent les entreprises à intégrer les droits humains et l'impact environnemental dans leur système de gestion.
J'ai entendu dire qu'un vote concernant cet accord était prévu dans peu de temps.
Exactement. Il devrait y avoir le vote d'une directive qui imposerait un devoir de vigilance aux entreprises avant les élections européennes qui auront lieu du 6 au 9 juin 2024. Si cet accord est voté, il y aura de nombreuses conséquences pour nous et pour les entreprises.
Quels seront les impacts concrets sur notre quotidien ?
Tout d'abord, les grandes entreprises telles que Puma, Shein, Zara et plein d'autres encore devront surveiller leur impact négatif sur les droits humains et l'environnement, dans des domaines tels que le travail des enfants, la pollution, gaspillage.
Mais les entreprises qui ne se soumettent pas aux règles devront payer une amende à hauteur de 5% de leur chiffre d'affaires.
La main-d'œuvre et les matières premières coûteront plus cher, ce qui augmentera le prix de nos vêtements. Mais ils seront de meilleure qualité et plus durables. En même temps, cela nous incitera à moins acheter de vêtements.
Oui, mais tout cela va bousculer nos habitudes de consommation.
Ce n'est pas grave, c'est pour le bien de tout le monde et de la planète, et ce n'est pas pour maintenant. Une fois votée, la directive devra faire l'objet d'une transposition dans notre droit.
Alors, soyons vigilantes !
Val de Hansen. Et pour conclure ce reportage, je vous propose un sujet très récent qui inquiète, les violences faites aux femmes.
Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro car l'avenir appartient à celles qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie.
Bonjour, donc aujourd'hui nous allons vous présenter la directive abordant les violences faites aux femmes, adoptée le 6 février 2024. Et pour mieux comprendre, voilà une petite interview. Nous sommes Yasmine
et Lina et nous allons vous poser les questions.
Je suis Marwa et je vais donc répondre aux questions.
Première question, quelles protections sont assurées par la directive instaurée ?
Cette directive garantit un minimum de protection contre toutes les violences faites aux femmes dans l'ensemble de l'Union européenne.
Quelles mesures prévoit-elle ?
Elle prévoit de criminaliser le viol et les violences faites aux femmes. Elle prévoit aussi que chaque État adopte des sanctions face à ces violences. De plus, elle prévoit une assistance aux victimes par un service téléphonique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans toutes les langues de l'UE, ainsi qu'un centre pour accueillir les victimes et les accompagner.
Pourquoi l'article 5 qui définit le viol pose-t-il problème ?
L'article 5 définit le viol comme un acte de pénétration sexuelle accompli sans consentement avec une partie du corps ou un objet. Cet article empêche l'adoption du texte car cela implique que la notion de consentement devienne un élément constitutif du viol. Le Parlement européen est majoritairement favorable, néanmoins certains États sont en désaccord avec cet article, dont la France. D'après l'État français, le viol se caractérise par la violence, la menace, la surprise ou encore la contrainte, mais aucune notion de consentement. L'Allemagne, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque sont également contre cet article.
Est-ce que la directive a-t-elle été adoptée ?
Cette directive a bien été adoptée le 6 février 2024. En revanche, malgré des négociations prolongées, la définition du viol basée sur l'absence de consentement a été exclue de l'accord à cause de l'opposition de certains États, notamment la France. Toutefois, un article supplémentaire, l'article 36, a été ajouté. Il contraint les États membres à mener des actions de sensibilisation sur le consentement. Une clause de revoyure a été intégrée dans le texte, prévoyant une révision dans 5 ans. Cette disposition offre une opportunité de réexaminer la question de la définition du viol.
Quelles sont les violences abordées par cette directive ?
Cette directive aborde le cas des violences conjugales, des mariages forcés, du revenge porn et du cyberflashing.
Pourquoi les États membres doivent impérativement traiter les violences conjugales comme une infraction pénale ?
Les violences conjugales en Europe causent la mort de 7 femmes chaque jour. Elles sont donc d'une grande ampleur. Elles subissent des violences domestiques et chaque jour, chaque semaine, plusieurs femmes sont tuées par leur conjoint en Europe. Ce phénomène de violence extrême présent dans le monde entier vise à maintenir l'inégalité entre hommes et femmes. Il est crucial que les États membres traitent la violence domestique comme une infraction pénale afin de réprimer ces actes et de protéger les victimes grâce à l'adoption de sanctions communes. Ces mesures doivent être prises rapidement pour réduire ce phénomène violent qui touche de nombreuses femmes. Avec une définition commune des violences conjugales et des sanctions uniformes, les victimes auront un meilleur accès à la justice.
Vous nous avez dit précédemment que la directive aborde les cas des mariages forcés en Europe. Pouvez-vous m'en dire plus ?
Effectivement, cette directive vise à lutter contre les mariages forcés. En France, un nombre significatif de femmes issues de l'immigration ont subi des mariages non consentis. Ces pratiques violent les droits humains et entraînent souvent des conséquences graves telles que l'abandon de l'éducation, la séparation familiale, l'esclavage domestique et la mutilation génitale. L'Union européenne appelle à une action renforcée des États membres pour combattre ces pratiques et protéger les femmes en adoptant une définition et des sanctions communes.
Avez-vous un mot pour conclure ?
Je dirais que l'adoption d'une directive sur les violences faites aux femmes par l'Union européenne représente un pas important dans la lutte contre les mariages forcés, les violences domestiques et le cyberharcèlement. Malgré les progrès réalisés, certains points restent sujets à débat et nécessitent une révision future, notamment la question de la définition commune du viol. Il est essentiel que les efforts se poursuivent pour garantir la protection des droits des femmes à travers l'Europe en s'attaquant aux pratiques préjudiciables et en renforçant les mesures de prévention et de soutien.
Merci de les avoir écoutés et merci à eux pour leur travail et investissement.
Radio en scène. La radio qui se met en scène.
Au lycée Val-de-Seine de Grand-Quevilly, en direct sur 102.8 FM et sur zonedonde.org.
Val-de-en-Seine, en direct de 10h à 16h. La radio qui se met en scène.